Et ici, Raymond Beaugrand-Champagne, qui vient encore une fois vous raconter des vies de saints, des événements qui se sont déroulés dans l'histoire et qui concernent des gens qui ont su aimer Dieu par-dessus tout. Parfois, la légende s'empare de certains saints, comme Saint Gilles, dont il est question aujourd'hui. Mais d'autres fois, nous avons des documents absolument précis, les documents historiques les plus exacts. Et c'est ce qui m'inspirera tout à l'heure pour vous parler des martyrs de septembre, au sujet desquels j'ai lu tellement de choses depuis mon adolescence, car je me suis toujours intéressé à ces grands martyrs de septembre, c'est-à-dire qu'en 1792, au moment de la Révolution française, de nombreux évêques et prêtres religieux de toutes sortes et quelques laïcs ont été massacrés, particulièrement à l'église des Carmes. J'ai toujours habité tout près de l'église des Carmes, au 10 rue Cassette, dans un petit hôtel, quand je travaillais à Paris chaque année pour faire mes émissions de télévision. Et j'allais à la messe presque tous les jours, là, dans cette chapelle. Je passais à côté de cet escalier où ont été massacrés des dizaines et des dizaines et des dizaines de prêtres. Et c'était un massacre épouvantable. Et quel courage ils ont eu. Il faut lire les documents. Je vous en lirai quelques extraits tout à l'heure. Mais passons tout d'abord à Saint-Gilles. J'en profite pour souhaiter une heureuse fête à tous les Gilles que je connais, j'en connais plusieurs, qui me sont très chers. Gilles est né à Athènes, donc un grec. Ses parents, d'ailleurs, avaient des noms bien grecs, Théodore et Pélagie. Et ils étaient, dit-on, de race royale. Ils étaient parmi les premiers citoyens de la ville d'Athènes. Et très jeune, Gilles, fort bien élevé, fort bien éduqué, s'est fait remarquer par son intelligence et aussi par sa piété. Un jour, en rencontrant un pauvre malade et n'ayant absolument rien à lui donner, il lui a abandonné la tunique qu'il portait. Et la tunique, dit-on, a guéri ce pauvre malade immédiatement. Il a caché son geste de charité et le miracle qui était survenu en disant qu'un inconnu lui avait enlevé son vêtement, il avait été volé. Devenu orphelin, Gilles s'est empressé de distribuer tous ses biens aux pauvres. Et il a guéri un homme qui avait été piqué par un serpent, il a chassé, dit-on, le démon du corps d'un possédé. Et on raconte que sa popularité l'effrayait. Tout ça se passe il y a très longtemps. On dit que c'est au 6e ou 7e siècle, on n'est même pas sûr. Ben vous, la légende s'est emparée de Saint-Gilles, comme je vous ai dit au début de l'émission, mais c'est pas toujours le cas. Et on peut découvrir dans ce qui nous reste de la vie de Saint-Gilles des détails qui peuvent paraître à nos yeux, en tous les cas aujourd'hui, comme authentiques et exacts. Il s'est rendu secrètement au bord de la mer, car il voulait fuir la popularité, et a perçu un navire qui luttait contre la tempête. Alors il s'est mis en prière et le navire a abordé heureusement. Les matelots, très reconnaissants, ont pris Gilles avec eux gratuitement pour le conduire à Rome. Donc il passe de la Grèce à l'Italie. Et au bout de 4 jours... ils ont atteint une île où vivait, depuis une douzaine d'années, un ermite. Gilles a passé 3 jours avec lui à faire quoi? À louer Dieu. Ça me rappelle, lors de mon premier séjour à Vézelay, il y avait un franciscain qui venait de s'établir dans une très vieille chapelle franciscaine qui datait, paraît-il, du temps de Saint-François. Et puis, je me souviens plus comment ça s'appelait, il y avait le mot « corde ardent », la cordelière, ou je ne sais trop. De toute façon, ce franciscain qui devait avoir 40-45 ans, et qui était vraiment un ermite, quoi, Je vais partager avec lui son ermitage pendant quelques jours et je vais prier avec lui pendant plusieurs jours dans les pentes de Vézelay, là où est la grande basilique dédiée à Sainte-Madeleine. Vézelay, c'est en Bourgogne. Et alors, donc, en France, là d'où vient le fameux vin de Bourgogne, quoi. Et alors donc, Gilles a fait la même chose, mais de façon beaucoup plus authentique que moi. Moi, je ne faisais ça que bien naïvement. J'avais 24 ans, j'étais pas sérieux. Et alors donc, il a loué Dieu avec cet ermite, puis s'est rembarqué pour Marseille, où le bateau qu'il avait pris est arrivé 3 jours plus tard. Et alors, apprenant la sainteté de Saint-Césaire d'Arles, j'en vous en parlerai un jour, c'est un saint... On vient de fêter sa fête, mais j'ai pas pu vous en parler vraiment. Alors donc, voyant qu'il y avait là un saint, Gilles est parti pour se rendre à Arles, en France, où il a logé chez une veuve riche qui lui a donné l'hospitalité. Elle s'appelait Théocrita. Et il a guéri sa fille qui était malade depuis 3 ans. Vous voyez, c'est toujours des guérisons, des choses. C'est possible parce qu'il y avait des saints, il y a même des saints, n'est-ce pas, à ce siècle-ci, qui font des choses vraiment phénoménales. Bon, je vais vous raconter un miracle que j'ai vu à la télévision qui était absolument étonnant et qui était très authentique, je vous assure, à moins que celui qui a raconté son propre miracle ait été un comédien parfait. C'était en résumé, là, je vous raconte ça a duré une demi-heure. C'était un charpentier qui était devenu impotent. Et puis, c'est-à-dire qu'il avait fait installer chez lui des espèces de montées, n'est-ce pas, pour son fauteuil roulant. Et il travaillait sur un établi dans le sous-sol, un établi qui était bas, rabaissé. Et sa fille était née en ne connaissant de son père que cet état dans lequel il était. Or, elle est devenue profondément religieuse et convaincue de sa foi vers l'âge de 18-19 ans. Et puis, elle a finalement traîné son père, qui n'avait plus ou moins perdu la foi à cause de cette épreuve, pour voir un jésuite américain à Boston. Et ce jésuite a accompli ce miracle, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'accomplit, évidemment, devant toute une assistance énorme. Et cette charpentier a raconté ce qui lui était arrivé. C'était tellement phénoménal, il s'est soulevé après 20 ans dans cet état-là. Il s'est levé, a marché devant tout le monde dans l'église, et puis les médecins n'ont jamais rien compris à Boston de ce qui avait pu lui arriver, parce qu'il était impensable qu'il puisse marcher. J'ai vu ça il y a peut-être 7-8 ans à la télévision américaine, dans une émission sérieuse, et c'était très bien fait. On peut le croire ou ne pas le croire. Moi, j'étais porté à le croire en voyant le témoignage de cet homme sérieux, sincère. Alors donc, Saint-Césaire d'Arles a fait demander notre Gilles, et puis il a obtenu de le garder près de lui pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, Gilles, qui était toujours désireux de se retirer dans la solitude, est parti, puis a traversé le Rhône. Hein. Arles est près du fleuve, le Rhône. Et il a rencontré un ermite encore, avec lequel il a habité une caverne au bord du Gard. C'est un autre fleuve en France. Et par leur prière, ils ont fait cesser, dit-on, une espèce de sécheresse. Et ils ont opéré de nombreux miracles. Et puis, craignant toujours une trop grande popularité, bien, Gilles est parti à nouveau. Il s'est installé non loin de l'embouchure du Rhône, dans le sud, dans un repère de bêtes sauvages auprès d'une source. On dit qu'il ne se nourrissait que d'herbe et d'eau. Je sais pas si vous écoutez le matin le livre de Jean Guiton à 9h30 à Radio Ville-Marie, où il est question d'inédit, c'est-à-dire cette capacité, ce don qu'ont reçu des gens comme Marthe Robin dans ce siècle, qui pendant 50 d'années n'a jamais mangé ni bu, et qui ne se nourrissait que de l'Eucharistie, au vu et au su des plus grands savants et des membres de l'Académie de médecine et de l'Académie française, etc. C'est récent. Bon, elle est morte en 1982, si je ne m'abuse. Et alors donc, il ne se nourrissait que de très peu de choses, d'herbe et d'eau. Mais Dieu lui a envoyé une biche qui se présentait régulièrement, dit-on, pour le nourrir de son lait. C'est pour ça qu'on le voit souvent avec une biche dans les représentations. À un moment donné, le roi des Goths, Flavius, qui chassait dans la forêt avec des chasseurs, avec les gens qui l'accompagnaient, ils ont aperçu une biche qui était plus belle que les autres. Ils l'ont pris en chasse, mais elle s'est réfugiée auprès du saint, de Saint-Gilles, qui a supplié Dieu de lui garder, dit le vieux texte, celle qu'il lui avait donnée comme nourrice. C'est sympathique comme expression. Les expressions de ces vieux textes sont charmantes. Hein? Celle que Dieu lui avait donnée comme nourrice, sa biche qui lui donnait son lait. Alors là, les chiens des chasseurs n'ont pas pu traverser les fourrés. Des espèces de... Bon, des creux, n'est-ce pas, des fourrés. Et alors, le lendemain, le même prodige s'est renouvelé. Alors là, le roi s'est fait accompagner par l'évêque. Ils ont suivi les chiens jusqu'à l'endroit où disparaissait la biche. Et là, pour la faire sortir, bien, un chasseur a tiré une flèche au hasard. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il a blessé Saint-Gilles. Mais cependant, ils ont réussi à faire pratiquer un passage à travers les ronces. Et là, le roi et l'évêque sont arrivés auprès du vieillard blessé, Saint-Gilles, qui était assis avec sa biche couchée à ses pieds. Il a raconté son histoire, puis a refusé tout secours et toute donation, car le roi voulait lui faire des dons. Les rois, à cette époque, comme les gens très puissants, faisaient des dons immenses aux ermites, aux saints, pour établir des monastères. C'était une façon de se faire pardonner leurs péchés, disait-il. C'était les coutumes du temps. Hein. Mais même encore aujourd'hui, vous savez qu'au siècle dernier, la famille d'Esclée et la famille de Brouwer, ou de Brouwer, selon la prononciation belge, ces deux familles-là ont construit le monastère immense de Maritsu, où j'ai souvent séjourné, où j'ai donné des conférences aux moines. C'est un immense monastère construit vers 1880. Là, le roi des Goths, Flavius, est revenu souvent voir Saint-Gilles. Il lui a offert des présents à maintes reprises. Et Gilles les repoussait, mais il a suggéré finalement la construction justement d'un monastère, et le roi y a consenti volontiers, si Gilles en devenait l'abbé. Il a décliné d'abord cet honneur, puis finalement il a cédé. Et deux églises ont été construites, dont l'une dédiée à Saint-Pierre, près de la caverne de Gilles, qui a été ordonné prêtre, qui a dirigé les moines, qui sont venus en très grand nombre. Ça existait il n'y a pas si longtemps. Quand j'étais au noviciat de Saint-Benoît-du-Lac, je me souviens, on m'avait donné la responsabilité du noviciat à un moment donné pour une journée, parce qu'il n'y avait plus de... Je sais pas, le père maître et le père zélateur étaient absents, et je n'avais que 19 ans, et j'avais autorité sur 23 novices. Nous étions 23 au noviciat. Je les avais comptés, parce que ça m'avait désespéré d'exercer un petit pouvoir pendant quelques heures. C'était pas un grand pouvoir, c'est un pouvoir de surveillance, quoi, sans grève d'autorité. C'était pendant le jeudi après-midi où on allait se baigner dans le lac. Faire attention donc qu'aucun ne s'aventure au centre du lac et ne se noie. C'est à peu près tout ce, le pouvoir que j'avais. Donc, le roi a donné à tous ces moines-là toutes les terres environnantes jusqu'à une distance de 5000. Là, le roi de France, finalement, Charles, pas le roi des Goths cette fois-ci, le roi de France, Charles, a entendu parler de Saint-Gilles et l'invitait à venir le voir. Il a accepté, il s'est rendu à Orléans, où il a délivré, dit-on, un possédé dans l'église de Sainte-Croix. Vous voyez qu'il y a toujours des éléments de légende. C'est difficile de savoir ce qui s'est passé. Et là, le roi l'a reçu, s'est entretenu avec lui du mépris du monde. Oui, un roi qui parle du mépris du monde. Ils ont parlé aussi de la recherche de la vertu. Puis, il a demandé de prier pour lui parce qu'il avait commis un péché. Mais ça, c'est une étrange histoire. C'est vraiment de la légende. D'abord, ça tient pas debout. Mais je vous la raconte quand même parce qu'on la raconte toujours quand on parle de Saint-Gilles. Donc, le roi lui raconte qu'il avait commis un péché, mais qu'il n'osait pas se confesser. Même pas à lui. Même pas à un saint comme Saint-Gilles. Et alors, pendant la messe du dimanche suivant, alors que Gilles priait pour le roi, la légende raconte cette aventure invraisemblable qu'un ange aurait déposé sur l'autel une charte, c'est-à-dire un manuscrit, une feuille, n'est-ce pas? Une feuille, un parchemin, quoi. On y lisait quel péché le roi avait commis et qu'il était remis, ce péché, à condition qu'il ne pêche plus, qu'il ne retombe plus dans son péché, grâce aux prières de Saint Gilles. Ça n'a pas de sens. De plus, tous ceux qui invoqueraient le saint pour quelque méfait que ce soit seraient pardonnés, disait le texte, s'ils n'y retombaient pas. Et à la fin de la messe, bien, Gilles a remis le papier ou la feuille au roi, là, qui a reconnu son crime et qui s'est prosterné aux pieds du saint en le suppliant d'intervenir pour lui. Et en rentrant dans son monastère, bien, Gilles est passé par Nîmes où il a ressuscité le fils du prince. Alors, peu après, il a annoncé à ses moines que les ennemis détruiraient bientôt leur monastère et qu'ils croyaient devoir se rendre à Rome pour placer le monastère sous la protection du pape et le soustraire ainsi à toute emprise laïque. Car il fallait toujours se débattre, jusqu'à tout récemment, hein. L'Église a toujours dû se débattre pour éviter l'entreprise laïque qui nommait les évêques, qui essayait de nommer les papes même. Ils y sont parvenus quelquefois, c'était tragique. Et là, le pape a accordé à Gilles ce qu'il lui demandait, et en gage d'amitié, lui a offert deux portes. Écoutez bien, ça c'est des histoires absolument bracadabrantes. Il lui a offert deux portes en cyprès, sur lesquelles étaient gravées des sculptures, là, en bas-relief, des apôtres. Qu'est-ce que Gilles fait avec les deux portes? Il leur donne de les jeter dans le Tibre, dans le fleuve, là, près de Rome. À la stupeur des assistants qui l'ont traité de fou. Et on dit qu'il est reparti, puis s'est arrêté 3 jours à Cavaillon, dans une ville où il a guéri un paralytique. Bon, qu'est-ce qui arrive aux deux portes? Mais à son arrivée à son monastère, on lui a annoncé que deux portes flottaient dans le port. C'était celles que le pape lui avait données. Alors là, il les a fait placer à l'église comme témoignage de l'accord avec le Saint-Siège. Quelle histoire abracadabra! Après avoir mis ordre à ses affaires, bien, Gilles est mort dans la nuit du 1er septembre. Pardon. Et les fidèles ont entendu, dit-on, les anges qui ont reçu son âme en chantant ses louanges. Je lis ici textuellement. Texte signé par des bénédictins de l'abbaye Sainte-Marie de Paris, de la congrégation de Solesmes, cette grande congrégation monastique dans laquelle j'étais entré à 18 ans, pour laquelle j'ai énormément de respect, car c'est plein d'hommes sérieux, de savants et de gens qui cherchent vraiment à devenir des saints. Et ces moines écrivent cette ligne-ci, « La légende de Saint-Gilles, que nous venons de résumer, est bourré d'invraisemblances. » Et par la suite, ils disent, nous devons conclure modestement, Saint-Gilles est vraisemblablement un moine ou un ermite du 6e ou du 8e siècle, dont on ne savait plus rien quand le développement du monastère qui gardait ses reliques donna à son nom une renommée universelle. Voilà ce qu'on dit de ce pauvre Saint-Gilles. Et maintenant, je tiens à vous parler des martyrs de septembre, et en particulier d'André Grasset, né à Montréal, et tué dans ce fameux massacre de 1792. C'est parmi tous les épisodes de la Révolution française. Les massacres de septembre sont assurément l'un des plus célèbres. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient des mieux connus. Des mieux connus tant par l'histoire que surtout par la foule des gens. Les circonstances sont bien connues. Au lendemain du 10 août 1792, jour pénible, où la monarchie est tombée, le roi Louis XVI avait été arrêté alors qu'il fuyait. Mais le peuple, du moins les éléments avancés, comme on dit, s'est cru enfin délivré de ce qu'on pourrait appeler les dernières entraves qui l'empêchaient de faire justice des ennemis de la liberté, disait-il. Le peuple s'est déchaîné. Quand est parvenue à Paris la nouvelle de l'invasion des Prussiens. L'excitation était portée au paroxysme. Ça s'est traduit par la résolution de se porter aux frontières pour rejeter, pour forcer les Allemands à se retirer. Mais après avoir fait justice des traîtres, ceux qu'on considérait comme des traîtres à la Révolution, et d'où est venue l'initiative, il est difficile de le dire. On l'attribue souvent à des sections qui, en grand nombre, avaient voté le 1er septembre des motions comme celle-ci. Je lis le texte qui est un peu complexe, mais prêtez bien attention. Voici le texte voté le 1er septembre 1792. Le danger imminent où se trouve la patrie, la France, ne résulte pas seulement de l'entrée des troupes ennemies, allemandes, prussiennes, sur le territoire français, mais bien de ce nombre de malveillants que renferme la capitale, de ces conspirateurs détenus dans les prisons, ce sont surtout ça des évêques et des prêtres, dont le jugement est retardé sous différents prétextes. Il n'y avait d'autre moyen que de faire sur le champ justice prompte à tous les malfaiteurs et conspirateurs détenus dans les prisons. Là-dedans, il y a des moines, il y a des bénédictins, il y a des sulpiciens, etc., des franciscains. C'est insensé de parler de malfaiteurs et de conspirateurs détenus dans les prisons. Donc, il fallait faire marcher en tête des forces opposées à l'ennemi, les prêtres insermentés, voilà, les prêtres qui n'ont pas voulu prêter le serment. Et le texte ajoute les femmes et les enfants des ennemis dont les corps serviraient de rempart aux troupes citoyennes. C'est inconcevable. Alors donc, les troupes citoyennes, mais ce sont les révolutionnaires, évidemment. Alors ces motions-là, qui ont été distribuées aux autres sections, sont arrivées trop tard pour avoir effet, et cependant, la proposition avait circulé de bouche à oreille, elle avait fait des adeptes, et le 2 septembre, les gens se sont portés vers les prisons. Leur nombre est difficile à déterminer, quelques centaines peut-être. Au rapport d'un témoin, ils n'étaient pas tous ces révolutionnaires, des gens sans instruction, loin de là. Ces bourreaux assassins avaient souvent un excellent accent français, leur discours trahissait souvent qu'ils connaissaient bien ce qu'on appelle le philosophisme qui traînait dans les clubs, les écoles de cette époque, là. Les écoles, les groupements de gens qui discutaient fort et haut. Et on peut pas dire que la grande partie d'entre eux étaient des ignorants, des fanatisés contre les prêtres. Ceux qu'on appelle les philosophes, les encyclopédistes, enfin tous les ancêtres de la Révolution, avaient voué pour la plupart, en tous les cas, une haine solide à la religion et à ses ministres. Et aussi, après le 10 août, la chute du roi, une fois disparu ce tyran, ce roi, on s'est mis à arrêter les prêtres réfractaires au serment de fidélité à la Constitution civile et les prisons étaient pleines. Et nous sommes rendus au moment où les prêtres qui ne peuvent pas prêter un serment à cette nouvelle constitution civile qui serait un geste de schisme avec l'Église de Rome, avec l'Église catholique. Alors, ils ont été jetés en prison, et les prisons étaient pleines. Il a fallu en créer de nouvelles, et c'est là qu'on en crée une, au couvent des Carmes, dont je vous ai parlé au début de l'émission, c'est-à-dire, c'est là qu'est aujourd'hui l'Institut catholique, cette grande université catholique de Paris. C'est une université sérieuse. Les gens qui m'entendent dire une université catholique peuvent croire que c'est moins sérieux qu'une autre université. Au contraire, c'est une université admirablement bien gérée, où on enseigne sérieusement les choses les plus sérieuses. Et la chapelle du couvent des Carmes, qui est comme une église, sert toujours au public. J'y suis souvent allé à la messe. Je vous conseille d'y aller pour réfléchir. Et en même temps, vous y verrez le tombeau de Frédéric Ozanam. Cet admirable laïc dont je vous parlerai, qui a vécu au siècle dernier, fondé les conférences de Saint-Vincent de Paul, et quand vous profitez de la Saint-Vincent de Paul, certains d'entre vous peut-être, qui aidaient la Saint-Vincent de Paul, vous pouvez invoquer Frédéric Ozanam, qui devrait être canonisé, je ne sais pas ce qu'on attend. Fermé des prés quand on est à Paris, hein, on peut voir ça. Des très beaux bâtiments d'ailleurs. Donc c'est là que le massacre a commencé le 2 septembre pendant le transfert des prêtres, qui avaient été renfermés d'abord à la mairie. Et du groupe était notamment l'abbé Royer, qui était curé de Saint-Jean en grève, qui ranimait les courages. Et au matin du 2 septembre, donc, il interpellait ses compagnons de la façon suivante, c'est historique. C'est aujourd'hui dimanche. Il est certain qu'on ne nous permettra ni de dire ni d'entendre la messe. Mettons-nous donc à genoux le temps qu'elle durerait, et élevons notre cœur vers Dieu. Puis alors, vers 2 heures de l'après-midi, ils ont entendu le canon d'alarme qui retentissait dans Paris. C'était soi-disant à cause de la prise de Verdun. Et en réalité, c'était le signal pour diriger le reste des prisonniers de la mairie à l'abbaye. Insultés en cours de route par la foule, ils ont été massacrés en descendant de leur voiture. Les autres ont subi un simulacre de jugement dans la salle des autres du monastère de Saint-Germain-des-Prés. Et à la prison, le fameux Maillard, un des chefs de la Révolution, demandait aux laïcs s'ils avaient défendu les Tuileries le 10 juillet pour défendre le roi, qui était attaqué aux Tuileries. Et aux prêtres, il leur demandait s'ils avaient prêté le serment. Et là, la condamnation était prononcée. Et la victime massacrée à coups de sabre, la poudre pour les fusils était trop précieuse, on se servait de sabre. Le sang se répandait de façon abominable. Et parmi les plus beaux traits, il faut citer deux jeunes franciscains qui craignaient, eux, de ne pas mourir avec les autres, parce qu'ils n'étaient pas prêtres, et donc ils n'étaient pas soumis au serment. Quelques-uns ont échappé à la mort grâce à des appuis ou à leur présence d'esprit. Mais un prêtre séculier, l'abbé L'Enfant, qui était un ex-jésuite, vous savez, les jésuites avaient été supprimés, et qui était confesseur du roi, a été massacré peu après par la populace. Au Carme, le fameux couvent des Carmes dont je vous ai parlé. Bien là, le massacre a commencé plus tard vers 4 heures. Les prisonniers sortaient pour leur promenade journalière dans le jardin. Et bientôt, des clameurs se sont élevées, la porte du jardin était enfoncée, et les assaillants se sont rués sur les prêtres. Toute proportion gardée, je pense à cette foule déchaînée qu'on a vue devant Notre-Dame, à Montréal, lorsque des gens qui priaient pour sauver des enfants à naître sont sortis de cette église, des gens bien calmes, on les avait accusés de tous les maux. C'est la même chose, on accusait ces prêtres de tous les maux. Et alors, le premier que cette foule a rencontré, c'était l'abbé Giraud qui restait son bréviaire. Il s'est même pas détourné, il priait. Il a été renversé d'un coup de sabre et transpercé d'une pique. Puis se sont précipités sur l'archevêque d'Arles, Jean-Marie Dulot, qui ne s'abattit qu'au 3e coup de sabre, était aussitôt transpercé. Là, ils se sont mis à poursuivre, à frapper les prêtres à travers le jardin. Ce jardin qu'on peut voir aujourd'hui, au Carme, rue Cassette. Ils sont venus prendre pour cible ceux qui s'étaient réfugiés dans une chapelle. L'évêque de Beauvais a eu la jambe fracassée d'un coup de fusil. Le commissaire de la section, arrivé sur les entrefaites, a voulu faire respecter la légalité, disait-il. Alors là, il a rassemblé les prêtres dans le cœur de l'église. On leur a demandé bientôt s'ils avaient prêté le serment, et sur leur réponse négative, on leur disait « Passez, passez, votre compte est bon. » Et on les a fait passer par un petit couloir, je connais le couloir, où l'on vérifiait leur identité. Combien de fois je suis passé dans ce couloir en pensant à ces événements épouvantables. Et au bout du couloir, ils étaient massacrés en descendant au jardin sur le petit escalier qui subsiste encore. Faut y aller.
quoi lui méditer, prier là-dessus. Un des derniers à sortir, c'était l'évêque de Beauvais, dont je vous ai dit un mot. Qui était l'évêque de Beauvais? C'était François de La Rochefoucauld, qui avait été transporté à l'église sur un matelas, et qui a été transporté de même pour recevoir le coup fatal qui l'a fait périr. Et avec lui est mort aussi son frère, l'évêque de Saintes. Là encore, quelques prêtres ont été épargnés ou ont réussi à s'échapper. Un laïc, le comte de Valfond, a été massacré pour avoir répondu « J'appartiens à l'Église catholique, apostolique et romaine ». Et au séminaire Saint-Firmin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était transformé en prison, mais les assassins, ils sont arrivés qu'au matin du 3 septembre. Ces décalages ont fait croire que les équipes passaient d'une prison à l'autre. Et la veille, à 8 heures, le procureur du séminaire a été prévenu par des jeunes gens qui l'ont supplié de se cacher. Après des hésitations, il les a suivis et a traversé sans encombre le corps de garde, et d'autres se sauvèrent également. Ils sont restés cachés dans un grenier 2 jours durant. Le 3 septembre 1792, à 5h30 du matin, les massacreurs ont pénétré dans la maison. Ils l'ont visité et ont mis sous la sauvegarde de la loi 5 prêtres de la communauté de Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Saint-Nicolas-du-Chardonnay, c'est cette église, n'est-ce pas, qui est passée sous le règne des catholiques qui ont quitté malheureusement l'église en suivant cet évêque qui était condamné, n'est-ce pas, Monseigneur Marcel Lefebvre, que j'ai bien connu, avec lequel j'ai mangé, que j'aimais bien dans un sens, il n'était pas méchant, ni était obtus. Il était surtout entraîné par des gens autour de lui, des prêtres, extrêmement obtus, et qui ne comprenaient rien. Alors là, les autres prêtres, y compris le vénérable supérieur du séminaire Saint-Firmin, M. François, un lazariste, une communauté merveilleuse et lazariste fondée par Saint-Vincent de Paul, ont été précipités par les fenêtres, ils ont été assommés. À la prison de la Force, on a commencé le 2 septembre vers 4 heures de l'après-midi l'appel des prisonniers sous prétexte de les inscrire pour les envoyer combattre à la frontière. Et là, le massacre a commencé vers minuit. Et la plus célèbre victime, vous avez vu ça sans doute dans des films, c'était la fameuse princesse de Lamballe. On lui a tranché la tête et on portait la tête au bout d'un pic. Et on a fait voir la tête de la princesse de Lamballe à la reine de France, qui était un prisonnier à la conciergerie, pour l'effrayer et la menacer elle-même de lui trancher la tête, ce qu'on a fait d'ailleurs. Un prisonnier que les juges n'avaient pas condamné était d'abord saisi par 4 brigands. Celui qui présidait au massacre le conduisait en criant, en lui ordonnant de crier comme lui, « Vive la nation !» Ils arrivaient ainsi jusqu'au guichet là, de la prison, et là étaient rassemblés les bourreaux, au nombre d'environ 60. Là, ils formaient une haie qui se rendait jusqu'à l'extrémité de la rue. C'était fermé par un trophée, un monceau de cadavres, entassés les uns sur les autres. Et là, le prisonnier était relâché au cri de « Grâce aux bons citoyens !» Et d'un prêtre, bien là, on exigeait évidemment le serment de liberté-égalité, qui était un serment de haine, malheureusement. C'était un beau serment, en fait, mais il était viré à la haine. Combien de fois dans l'histoire de l'Église, partout et même encore aujourd'hui, on assiste à des assemblées où la haine règne, la rage et la colère. C'est incroyable. Alors donc, il y avait eu un prêtre, comme ça on exigeait de lui ce serment. Et puis, il fallait qu'il étende la main sur les cadavres. Alors évidemment que si le prisonnier répétait le serment, bien, les derniers bourreaux lui ouvraient le passage, il était libre, mais très peu ont prêté le serment. Il y a eu encore des massacres au Châtelet, à la Conciergerie, puis à Bicêtre. Bicêtre, c'est tout près de Paris. Hein. Mais On peut dire que l'Église n'a retenu aucune des victimes qui sont mortes dans ces endroits-là, pour les placer sur les autels. Une grande prudence était requise, évidemment, parce que c'est pas facile de béatifier des gens qui sont morts dans de telles conditions. Aussi, l'Église n'a retenu que les prêtres, les évêques, les quelques laïcs qui ont été massacrés pour le refus de serment à la constitution civile du clergé, sauf évidemment les laïcs. Et puis elle a retranché 18 noms sur la liste qui lui était présentée. Et elle a proclamé bienheureux 191 personnes. Parmi ceux-là, il y a Monseigneur Dulot d'Allemand, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était né en 1738 et qui était archevêque d'Arles. François-Joseph de la Rochefoucauld-Maumont, né en 1736, qui était évêque de Beauvais. Pierre-Louis de la Rochefoucauld-Bayers, frère du précédent, né en 1744 au château de Viviers, évêque de Saintes. Et des prêtres du diocèse de Paris, je vous donne quelques noms. Je vous donne quelques noms parce que ce sont des noms québécois. Gabriel Després de Roche. Després, on a vu ça ici, qui était vicaire général de Paris. Pierre-Louis Gervais, qui était secrétaire de l'archevêché de Paris. Jean-Antoine Séguin. Denis-Claude Duval. Claude Fontaine. Marc-Louis Royer. Et d'autres diocèses, Louis-Rémy Benoît. Un autre Louis-Rémy Benoît, mais avec un nom ajouté, Nicolas, qui était frère du précédent. Louis-François Barrette. Jean-Antoine Guillemette, des noms québécois, comme vous voyez. Nicolas Gaudreau. Georges Giroux. Jacques Dufour. Michel Gillet. Louis Lanier, Claude Roussel, de Lisieux, il y avait Jean-Charles Legrand, professeur de philosophie, Claude Collin, supérieur de l'Hôtel Dieu, Olivier Lefebvre, un chapelain de l'Hospice de la Miséricorde à Bayeux, Louis-Laurent Gauthier, aumônier de l'Hôpital des Incurables, Jean-Baptiste Jeannet, aumônier de la Salpêtrière. Jean-François Bousquet, un canoniste. Jean-Pierre Simon, de l'église Notre-Dame à Paris. Il y avait des séminaristes aussi, dont le plus jeune, un diacre, était au séminaire Saint-Sulpice, et qui porte un nom bien connu à Montréal, mais c'est pas un nom vraiment québécois dans le sens où on l'entend généralement, c'est Antoine François Dieudonné de Ravinel, né en 1769, donc il avait 23 ans. Il porte le nom de Ravinel, ça vous rappelle Hubert de Ravinel, des petits frères des pauvres, dont il a été question hier à Radio Ville-Marie. Et enfin, je vous donne des noms comme Jean-Louis Samson, Jean-Thomas Leroy, Philippe Fugère, Pierre Landry, Jean-Philippe Marchand, Augustin Poulain, Claude Aubert et André Grasset. André Grasset de Saint-Sauveur, né à Montréal en 1758, chanoine de Sens en France. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il y avait même un capucin qui s'appelait Jean-Pierre Duval. Un autre capucin, Jean-Jacques Morel. Un franciscain, Georges Giroux. D'anciens jésuites comme Claude Dumas, Pierre Guérin. C'est des noms tout à fait de chez nous, hein. François Guérin aussi. Jean-Charles Caron, Nicolas Collin. Il y avait des sulpiciens, des prêtres de Saint-Sulpice, Claude Rousseau, Michel Guérin, encore un autre Guérin, Des eudistes comme François-Louis Hébert, qui était assistant du supérieur général. Des missions étrangères, il y avait Urbain Lefebvre, un ancien missionnaire. Parmi les frères des écoles chrétiennes, il y en a eu un, Guillaume Louis Leclerc. Et pour les laïcs, je vous donne les noms, même si ce ne sont pas des noms d'ici, parce que la plupart de mes auditeurs sont laïcs. Et sachez qu'il y a eu des laïcs très courageux dans ce massacre. Un homme de 53 ans, Sébastien Desbriel, maître d'école. Un homme de 41 ans, Louis-François Rigaud, qui était sacristain à l'hôpital de la Pitié à Paris. Charles Mathieu de la Calmette, comte de Valfond, 45 ans. Un ancien officier du régiment de Champagne, qui habitait Paris. Et enfin, un homme de 61 ans, Jean-Antoine de Villette, qui était chevalier de Saint-Louis, ancien officier. Il y a un très beau texte qui a été publié par Journiac de Saint-Méard, « Mon agonie de 38 heures au récit de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai vu et entendu pendant ma détention dans la prison de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, depuis le 22 août jusqu'au 4 septembre, 1792. C'est impossible de mettre la main là-dessus, sauf dans des bibliothèques très spécialisées. Il y a des livres aussi dans la collection Les Saints, qui étaient très populaires dans les années 20. J'ai ce livre, c'est Les Martyrs de Septembre, de Welschinger. Ce sont des ouvrages terribles à lire. Je voudrais maintenant vous parler d'André Grasset. André Grasset, comme je vous ai dit, qui est né à Montréal et qui a été vraiment un des hommes les plus remarquables de tout ce massacre, parce que il nous touche au cœur. Il a été baptisé à l'église Notre-Dame de Montréal le 3 avril 1758. Il est parti avec ses parents pour habiter en France 4 ans après la conquête anglaise, ou plutôt 4 ans après la capitulation de Montréal de 1760. Il est parti, donc, vers 1764. Vous savez que les Anglais laissaient partir le plus possible des gens remarquables de notre pays qui auraient pu avoir autorité pour nous garder dans la foi catholique et nous garder français. Et aussi pour éviter que ces gens ne fassent une révolution contre les occupants, les conquérants anglais. Et souvent, bien, nos concitoyens de cette époque ont préféré partir pour la France. D'ailleurs, à Houlgate, en Normandie, alors que je revenais de la plage, de la mer, de l'Atlantique, là, je retournais chez moi, je me disais, oh, il faudrait bien que je m'achète quelque chose dans une charcuterie, et j'avais vu charcuterie, je vais là, et en poussant cette porte de verre, vous savez, les portes de verre en France, dans les charcuteries, c'est souvent comme ça, et il y a une plaque de bois brune à la hauteur des mains ou des coudes, là, et en poussant ça, je lis, en les lettres dorées, c'est écrit Raymond Beaugrand. Je dis, mais c'est extraordinaire, Raymond Beaugrand, charcutier. Bon. Je rentre et je présente mon passeport à la madame Beaugrand qui était là. Et je lui dis, je suis moi-même Raymond Beaugrand, ben Beaugrand Champagne. Ah, dit mon mari aussi, il s'appelle Raymond Beaugrand Champagne. Mais j'ai dit, c'est impossible. J'ai dit, c'est un nom québécois, Beaugrand Champagne. Et vous, vous êtes français. Elle dit, non, non, elle dit, les ancêtres de mon mari étaient au Canada. Et ils sont revenus au moment de la conquête. Ils n'ont pas voulu souffrir la présence anglaise. Ils sont venus en France. Et j'ai pas pu rencontrer mon homonyme français Raymond Beaugrand Champagne, mais j'aurais bien aimé lui serrer la main. De toute façon, pour revenir sérieusement à notre André Grasset, en 1772, la famille Grasset s'est installée à Sens, au sud de Paris. Et c'est dans cette ville-là que André Grasset a fréquenté avec ses trois frères le collège Sainte-Barbe, qui était un collège très important, où il a reçu une excellente éducation. Donc, ses études classiques terminées, André Grasset s'est orienté vers le sacerdoce.
Il avait de très belles qualités, une grande piété. C'est ce qui lui a permis d'affronter le martyr avec courage comme les autres. Et cette piété a attiré l'attention de son archevêque, qui l'a nommé à 23 ans seulement chanoine de sa cathédrale. Et 2 ans plus tard, à 25 ans, il a été ordonné prêtre, donc en 1783. Mais arrive 1789. La Révolution française est une date lugubre dans l'histoire de France. Mais en même temps, il ne faut pas croire que tous les révolutionnaires étaient nécessairement des gens malsains. Au contraire, il y avait des gens nobles là-dedans qui voulaient vraiment une réforme de la société française. Et cette année a commencé au milieu d'un hiver rigoureux de 1789. Il y avait les récoltes étaient vraiment insuffisantes, la récolte de 1788, et les foules étaient affamées, étaient menaçantes. Et là, le roi a annoncé une convocation des états généraux. Ça a excité l'agitation dans les esprits. Et puis, sont nées des idées plus ou moins anarchiques. On voit ça partout. On en a vu ici, puis c'est normal. Il faut pas s'effrayer outre mesure de ça. Il s'agit d'essayer de comprendre et d'animer ça d'un esprit chrétien. Je crois qu'il faut que les révolutions, quand elles se font, soient des révolutions pacifiques, démocratiques. Et les chrétiens doivent être présents. Mais malheureusement, quand elles sont prises par des non-chrétiens, c'est peut-être dangereux. Ou du moins des chrétiens qui ne le sont pas, qui ne sont pas vraiment. Et ça a amené une explosion de colère terrible, sanglante. En 1790, l'Assemblée nationale française, l'Assemblée nationale constituante, a supprimé les chapitres des cathédrales, et puis, c'est-à-dire les chanoines. Et là, en 1791, on a demandé à tous les membres du clergé de prêter le serment. La très grande majorité des évêques, des prêtres, des religieux s'y sont refusés. Et là, au début de 1692, le chapitre de la cathédrale de Sens, dont faisait partie notre André Grasset, a été supprimé. Le chanoine Grasset s'est donc rendu à Paris avec un certain nombre de ses confrères. André Grasset est arrêté, était conduit à la prison des Carmes. Et le 2 septembre, vers 2 heures de l'après-midi, là, le tocsin s'est fait entendre, le canon, n'est-ce pas, d'alarme, qui était tiré et dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, Maillard, le sanguinaire, dont je vous ai parlé aussi, qui est à la tête de son groupe, se dirige sur l'abbaye. Et là, on l'a chargé de cette expédition sanglante, et c'en était fait. Les prisons, comme je vous ai dit, de la capitale, vont devenir des boucheries épouvantables. Et puis, après 3 heures, mais la tuerie a commencé. Et un semblant de tribunal, n'est-ce pas, c'est organisé, l'avez-vous prêté serment? Puis non, répond chacun des confesseurs de la foi. Ma conscience me le défend. Puis à chaque réponse négative, bien les condamnés qui défilaient dans ce petit corridor-là, qui conduit à l'escalier du jardin des Carmes, doivent s'avancer, puis au bas du petit escalier, c'est là que les égorgeurs les attendent. On sait qu'on en a pris d'ailleurs dans les bras le pont de... On les prenait comme des billots pour massacrer leurs crânes sur les murs du jardin. C'est une tuerie épouvantable. Le chanoine Grasset a donc consommé, si on peut dire, son sacrifice pendant cette scène atroce. Il avait 34 ans. La solennité de la béatification a eu lieu dans le plus grand éclat, le 17 octobre 1926. Un mois après ma naissance, ben oui, ça va être mon anniversaire lundi. Et parmi ces 191 martyrs, victimes des massacres de septembre 1792, mais sont morts, comme je vous ai dit, un archevêque, 2 évêques et tous les membres des 2 clergés, le séculier et régulier. Et parmi les prêtres séculiers, mais il y avait des représentants de toutes les dignités des fonctions ecclésiastiques. La plupart des congrégations ordres religieux avaient leurs victimes. Toutes les régions, sinon tous les diocèses de France, étaient représentées dans cette foule de martyrs. C'était une espèce de conscription qu'on pourrait appeler sanglante. Mais c'était une des grandes gloires de l'Église de France. Et on peut invoquer le bienheureux André Grasset en disant « Ô Dieu, qui avait animé de force et de courage l'âme du bienheureux André Grasset, et qu'il l'avait rendu ainsi capable d'affronter la mort, pour demeurer fidèle à sa foi. Obtenez-nous la grâce, à nous qui sommes si pauvres, de supporter les sacrifices que notre foi exige de nous, et de mépriser le respect humain, et de vivre en catholique sincère. Et en ces temps difficiles de la fin du XXe siècle, accordez à notre peuple québécois de revenir à la foi des anciens qui faisaient jadis sa grandeur et sa beauté. Ô Dieu glorifié André Grasset, qui vous donna la plus grande preuve d'amour en donnant sa vie pour vous, afin qu'à son exemple, nous demeurions nous aussi des Québécois fidèles à la foi de notre baptême. Amen.